Première conférence de la journée du 11 juillet 1986.
C'est la dernière journée. Donc faites encore un effort. C'est-à-dire pour mieux s'en sortir, puisque c'est ça qu'on doit faire. On connaît mieux le mal pour mieux l'éviter. C'est la tactique qu'on doit faire. Alors, je réponds d'abord aux questions. Masochisme en lien avec l'esprit de sacrifice tout à l'heure après le repas. Post-chiboum, comme on disait, post-chiboum, il ne faut pas, après la nourriture, il ne faut pas trop spéculer, donc il faut tomber dans le masochisme. Dieu pouvait-il connaître par avance que l'homme pécherait? Oui, Dieu connaît tout. Dieu savait par avance. C'est l'exemple que prend saint Thomas, c'est une chose très simple. Il prend cet exemple, c'est un exemple, hein. C'est pas du tout un principe, c'est un exemple. Se trouve sur une tour très haute. Il y a deux chemins creux dans lesquels il y a un brigand qui est ici. Puis un autre chemin creux par lequel il y a un saint homme. Dieu voit qu'ils vont se rencontrer. Forcément. Alors, comme la tour est très haut, Dieu situe sur une tour qui touche l'éternité. L'éternité, qu'est-ce que c'est que l'éternité? Vous savez, le gosse qui demande à sa mère, il a 4 ans. Sa mère vient lui apporter sa soupe, puis le gosse médite à 4 ans. Il dit, maman, qu'est-ce que c'est que l'éternité? Et quand la soupe est chaude, hein, alors sa mère dit, mange toujours ta soupe avant de le trouver. Puis le gosse veut rester. Puis sa mère voit que c'est impossible de le détourner de cette question. Qu'est-ce que c'est que l'éternité? Alors sa mère s'en va. Et puis elle revient au bout d'un quart d'heure. Le gosse est en train de prendre sa soupe. Alors sa mère lui dit, alors tu as trouvé. Alors le gosse prend son rond et dit, l'éternité c'est ça, maman. Et le premier symbole de l'éternité, c'est beau parce que Marc un gosse retrouve le premier symbole de l'éternité. Les enfants pensent symboliquement. Faut jamais l'oublier. C'est pour ça que les classes qui sont souvent très mal adaptés aux enfants, qui sont trop logiques, trop cartésiennes, font perdre à l'enfant sa possibilité de penser. À la place de penser symboliquement, on les fait penser logiquement. Ce qui est terrible. Les gosses pensent symboliquement. L'éternité, c'est ça, maman. C'est le premier symbole de l'éternité. L'éternité, saint Thomas nous dit, c'est comme un instant substantiel. C'est encore une image. C'est un instant substantiel. Nous vivons dans un instant. fait une année un séminaire très spécial sur le temps et l'éternité. Et dans ce séminaire, il y avait le métaphysicien, le professeur de mathématiques, le professeur de physique et le professeur de chimie. J'avais invité un poète. Il faut toujours inviter un poète quand on parle du temps. Le poète a un sens du temps en particulier. Puis j'essayais, moi, d'être le philosophe pour réfléchir sur ce que c'est que le temps. Alors on s'aperçoit que seul le philosophe parle de l'instant présent. Il n'y a que par l'instant présent jugement d'existence dans le temps où vous pouvez rejoindre l'éternité. Quand vous avez une conception du temps purement mathématique, physique, l'instant présent ne signifie rien du tout. Il y a un avant et un après. L'instant présent, seul le philosophe en parle. C'est la seule chose qui existe dans le temps. Le passé, il n'existe plus. Le futur, il n'existe pas. C'est l'intelligence qui rassemble le passé, le futur, et qui ordonne. Je crois que la notion du temps, c'est l'ordre le plus fondamental qui est en nous. C'est pour ça que la création nous est donnée selon l'ordre d'une semaine. C'est très curieux pourquoi Dieu exprime l'ordre de sa sagesse à travers une semaine. C'est très symbolique. Et c'est très conventionnel, une semaine. Pourquoi une semaine? Pourquoi 5 jours de session? 1, 2, 3, 4, 5. On met un ordre, on a besoin de ça. On a tous un calepin, un calendrier pour noter les diverses activités de l'année. Et quand on commence à vieillir, on confond. Comme un enfant ne sait pas demain, 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 demain. C'est comme le bientôt de Dieu. Marthe disait qu'il ne fallait surtout pas confondre le bientôt de Dieu et notre bientôt. L'Apocalypse se termine par le bientôt de Dieu. Ce n'est pas notre bientôt. C'est très mystérieux le temps, c'est l'intelligence. C'est très important parce que c'est la notion du temps qui permet de comprendre la rencontre de l'idéalisme et du réalisme. Si le temps est l'ordre le plus fondamental qui est en nous, on comprend très bien que c'est cette notion du temps qui va être le lieu de rencontre d'une pensée idéaliste et d'une pensée réaliste. L'ordre, le temps implique un ordre, il implique une mesure. Et c'est l'intelligence qui ordonne et qui mesure le passé et le futur et l'instant présent. Je le saisis. Et l'instant présent, il est fluent. On a déjà 5 minutes de cours, donc c'est terminé. Le début du cours, c'est déjà le passé. On vit de l'instant présent. Au point de vue philosophique et au point de vue de la foi, on vit de l'éternité. Ça, c'est le grand privilège du croyant. C'est qu'il vit l'éternité. On vit de la vie éternelle. Tandis que le philosophe, il vit de l'instant présent. Alors, il y a un point de rencontre. C'est justement ce jugement d'existence. La seule chose qui existe, c'est l'instant présent. Le passé et le futur. Deux choses différentes. C'est très important pour nous de comprendre ce langage métaphorique par lequel on est c'est exprimer l'ordre où le point de départ et le terme se tiennent. Puisque le propre de l'éternité, c'est cet instant subsistant, sans passé ni futur. Sans passé ni futur. Alors, si, justement, il n'y a pas de passé ni futur, toute la succession du temps est présente dans l'instant d'éternité. Dieu, dans son regard d'éternité, est présent à toute la succession du temps. Oui, la succession du temps. Dieu est présent. Et quand nous verrons Dieu dans la vision béatifique, dans l'instant de l'éternité, nous verrons toute la succession du temps. Nous assisterons dans l'éternité à la création. C'est extraordinaire. Pas d'une façon cinématique, pas comme pour un cinéma, mais dans la réalité. Toute la succession du temps nous sera donnée dans l'éternité, dans l'instant d'éternité. L'éternité assume toute la succession du temps. Le temps implique une juxtaposition, une succession. L'éternité, c'est substantiel, quelque chose d'actuel. Et Dieu vit sa vie de Dieu dans l'éternité. C'est une des choses les plus étonnantes, hein. L'éternité. Faut de temps en temps avoir le vertige de l'éternité. Parce que c'est vertigineux. Nous, on est tellement liés au conditionnement du temps. C'est ce qui nous conditionne le plus, le temps. Puisque c'est le premier ordre que nous saisissons. C'est donc le conditionnement le plus fondamental. Et quand on perd le sens du temps, on perd le sens de ce conditionnement. Le réalisme, c'est le réalisme de l'instant présent. Et de pouvoir, justement, être tout entier présent à cet instant présent. On est présent comme ça, autrement on fuit. Le gosse, il vit demain, demain, demain. Le vieillard, le passé, c'était si beau, si extraordinaire. Maintenant, c'est plus ça du tout. Tandis que l'homme, parfaitement homme, vit de l'instant présent. Il est tout entier à ce qu'il fait. Être présent à ce qu'il fait. Entièrement engagé dans l'instant présent. Qu'il s'agisse de l'adoration où il rejoint l'éternité dans sa contemplation. Qu'il s'agisse de son travail. Le travail bien fait exige cette présence à l'instant présent. C'est dans ce sens-là que le travail maintient le réalisme dans notre vie. Donc vous voyez, Dieu, par avance, de toute éternité, c'est pas par avance, je dirais Dieu, de toute éternité, connaît l'homme pécheur. Par avance, c'est encore comparer l'éternité, comme si l'éternité était avant le temps. L'éternité est. Et le temps, il était, il est, il sera. L'éternité conditionne le verbe passé, présent, futur. On a inventé ça. On a inventé dans le verbe présent, passé, futur, parce que toutes les actions sont dans le temps. Le travail est dans le temps. L'amour est au-delà du temps. Vous ne dites pas à quelqu'un « je vais t'aimer une demi-heure » tandis que vous dites à quelqu'un « je vais t'aider à faire la vaisselle pendant une demi-heure. Après, je regrette, je prépare autre chose. » Le travail se mesure par le temps. Et l'amour, non. Saint Thomas, dans le dévalon. Alors vous verrez que c'est pas commode, Saint Thomas. C'est pour ça que je ne vous ai pas plongé tout de suite dans Saint Thomas. Le dévalon, question discutée, c'est la question principale sur le Marne. Et on croit, selon les meilleurs spécialistes de Saint Thomas, que le démalot est une question dans la vie de Saint-Thomas, qui est à la fin de la vie de Saint-Thomas, donc qui est après la somme théologique. Et le démalot, c'est une question théologique, c'est sûr. Saint-Thomas est toujours un théologien. Saint-Thomas n'a jamais fait de la théologie pure, de la philosophie pure. De son temps, ce n'était pas la peine. On vivait en chrétienté. Et comme on vivait en chrétienté, on avait besoin d'être théologien. Les gens qui réfléchissaient étaient des croyants. Le concile nous demande l'ouverture au monde. Et le concile nous demandant l'ouverture au monde nous demande d'être philosophes. Et c'est pour ça que c'est à partir du concile qu'on ne fait plus de philosophie dans les séminaires. Juste l'inverse qu'on aurait dû faire. Parce que l'ouverture au monde ne peut se faire que par le point de vue de la philosophie. C'est très très curieux ça. L'ouverture au monde, ça veut dire l'ouverture à l'homme. Comprendre l'homme tel qu'il est, pas l'homme croyant. Je peux parler à l'homme croyant en faisant de la théologie. Tandis que si je fais de la théologie, et que je parle à un incroyant, il ne comprendra rien du tout. À un incroyant, vous parlez un langage humain, et donc un langage philosophique. Il faut être intelligent pour l'incroyant. Il faut éveiller son intelligence. Et c'est dans la mesure où vous éveillerez son intelligence et son cœur, sa volonté, que vous le conduisez vers Dieu. L'esprit, intelligence et volonté, l'esprit est normalement tourné vers Dieu. Et donc c'est cet éveil que vous devez faire. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est ce qu'on doit faire. Quand vous êtes en face d'un croyant, devenez les amis de ces incroyants. Et en devenant les amis de ces incroyants, par l'amitié, vous l'ouvrez vers Dieu. Pendant 15 ans, c'était des psychanalystes freudiens qui m'avaient demandé de dialoguer avec eux. J'ai été donc prêtre ouvrier pendant 15 ans auprès de psychanalystes freudiens. Oh, pas tous les jours. Tous les 15 jours, une soirée, c'était déjà pas si mal. Ceci pendant 15 ans. Eh bien, qu'est-ce qui s'est créé? Une amitié intellectuelle. Et cette amitié intellectuelle leur a fait comprendre que le freudisme ne l'expliquait pas. Freud ne peut pas expliquer ce que c'est qu'une amitié intellectuelle. Je me souviens très bien, parmi ces freudiens, il y avait docteur freudienne qui était la plus intelligente, la plus freudienne et la plus intelligente. Et elle avait été analysée par une freudienne allemande, juive, à New York. Comme conditionnement, c'est bien. Enfin, ça, c'est beau. Elle me parlait toujours d'elle, parce qu'elle avait été analysée par cette freudienne comme quelqu'un de très extraordinaire. Alors j'ai dit, mais je voudrais beaucoup la voir. Alors on avait préparé une possibilité de se rencontrer. Elle devait venir en Europe. On s'était dit, il faut se rencontrer pendant 8 jours. Pendant 8 jours, on fera de l'analyse.
que c'est. On s'était dit, il faut quand même une compensation, il faut trouver un lieu qui soit beau. Pour qu'on puisse respirer. Alors, j'étais en Suisse, je connaissais le lieu le plus beau, vous savez, en Suisse. C'est là où Tangadine. Quand je suis arrivé en Suisse, j'ai tout de suite demandé à des amis suisses, qu'est-ce qu'il y a de plus beau en Suisse ? On m'a dit, la Haute-Engadine. Et c'est vrai, si vous pouvez aller une fois dans la Haute-Engadine, ça vaut la peine. Vous savez que c'est là où Nietzsche a composé « Comment parler Zarathoustra ?» à Sils Maria, le lac de Marie. À Sils Maria, c'est un lieu très très beau. Alors j'avais demandé à ce dominicain suisse qui était très spécialiste en beauté. Il était cousin de ceux les Burckhardts qui sont des gens très très affinés. Alors il m'avait dit, c'est là où il faut aller. Je dis en été ou en hiver, ça dépend des années, comme pour les grands crus. Et c'est vrai, quand on y va l'hiver, c'est magnifique, quand on y va l'été, le printemps, c'est étonnant. Et l'été, c'est très agréable. Mais c'est le printemps et l'hiver qui est le plus beau. Parce qu'il y a un grand lac à 2000 mètres, dans lesquels les glaciers se... Alors il fallait ça, compensation. Parce que c'est pas drôle, un dialogue avec des freudiens spécialistes du freudisme. Alors on a commencé. Vous savez pas très bien ce que ça allait donner. Au bout de 6 jours, cette freudienne allemande, parlant très bien le français du reste, merveilleuse, d'intelligence, de finesse, mais terrible, son acuité freudienne, au bout de, je crois, 5-6 jours, tout d'un coup, on était, il faut encore l'endroit, elle me regarde, il y avait d'autres, il y avait des amis qui étaient à côté. Oh, comme vous me rappelez mon père. On l'a su à ce moment-là. Alors, les amis de Paris m'ont dit, vous avez fait une analyse étonnante. Elle nous a jamais parlé de son père. Et alors, à ce moment-là, elle s'est mise à parler de son père. Quand elle avait 15 ans, c'est une très belle histoire, du reste. C'est pour ça que je vous la raconte. Quand elle avait 15 ans, 14 ans, son père lui a dit, le seul livre qui est vrai, c'est la Bible. La vérité, elle est dans la Bible. Alors elle s'est mise, à son âge, à lire la Bible, entièrement. Et alors elle même racontait, j'ai vu que la Bible ne collait pas avec la science. Et j'ai opté pour la science. Alors subitement revenait son père. C'est-à-dire un au-delà de la science. Parce que c'était ça son père. Quelque chose qui n'était plus la science. Elle était d'un positivisme le plus effrayant qui soit. Une femme positiviste, vous savez. Je crois que la féminité est complètement ramenée à la positivité, le point de vue positif, la science, uniquement ça. Et qui n'était plus scientifique au bout d'un terme. Parce que la science, c'est le vieil Aristote qui dit ça, et c'est parfaitement vrai. La science qui se veut absolue tue la science. Parce que la science n'est jamais première ni dernière. parler sagesse dans sagesse qui n'est pas scientifique. Et donc une science qui se veut absolue, c'est le serpent qui mord sa queue et qui se tue. C'est ça le positivisme. Il faut bien le comprendre parce que c'est le mal le plus profond et c'est le mal qui unit l'Est et l'Ouest. On se demande de temps en temps pourquoi. Il y a des liens secrets entre l'Est et l'Ouest. Eh bien, c'est le positivisme. Parce que Lénine, à un moment donné, a dit que le marxisme devait évoluer selon la science. Et donc, Lénine a mis au-delà du marxisme le positivisme. Et c'est vrai. Ça, c'est Lénine qui a mis ça, c'est pas Marx. C'est toute la différence qu'il y a entre Mao et le Lénine. Mao était plus poète et Mao n'aurait jamais dit ça parce que c'était la culture lui, tandis que le marxisme tel qu'il est vécu à partir de Lénine, c'est un marxisme qui est dominé par le positivisme. C'est très important de le saisir. Alors vous voyez cette option pour la science contre la foi, contre tout ce qui peut être quelque chose de particulier. Je crois que ça, c'est l'orgueil de l'intelligence. Mais c'est pas commode de quelqu'un qui a, je sais pas, elle avait 60 ans à ce moment-là. Quelqu'un qui a 60 ans, qui s'est construit entièrement sur le positivisme et sur le freudisme, qui considère ça l'absolu. À 14 ans, elle quitte, puis elle retrouve à 60 ans son père qui revit d'une autre manière l'Ancien Testament et le Nouveau. Alors, c'est qui revit de cette façon-là, en faisant comprendre que la science n'est pas tout. Qu'on est obligé de reconnaître qu'il y a un au-delà de la science, une possibilité d'une philosophie, d'une réflexion philosophique. Parce que la réflexion philosophique, c'est justement de montrer que la science n'est pas tout, qu'il y a l'expérience, qu'il y a l'amour, qu'il y a la sagesse. Et qu'on doit découvrir cela. On doit lutter constamment contre le positivisme. Parce que le positivisme, il n'a pas de couleur politique. C'est pour ça qu'il peut unir l'Est et l'Ouest. Le marxisme a une couleur politique. Ce n'est pas le positivisme. Et le positivisme est plus terrible que le marxisme. Parce qu'il tue plus profondément l'homme. Il ramène l'homme à la logique. Il ramène l'homme à la science. Uniquement tout ramener à la science. Bono était positiviste quand il disait qu'il fallait que la morale soit reprise par le point de vue de la science et ainsi de suite. Au fond, les positivistes, on les compte tout le temps. Le positivisme a gagné l'exégèse, a gagné la théologie. Des quantités de théologiens sont positivistes aujourd'hui. Croit plus en la science et dans les méthodes que dans la foi. Et donc, il mesure la foi par les méthodes scientifiques et la science. Et en ce sens-là, la sagesse. Je crois que le positivisme, c'est le grand mal de l'intelligence. C'est le mal le plus profond de l'intelligence. L'intelligence ne peut plus respirer pleinement par le positivisme. Elle est endiguée. C'est le primat de la méthode, si vous voulez. Et non plus de la réalité. On regarde la réalité à travers un prisme, une méthode. Et on dit qu'on connaît la réalité. Je me souviens, à Fribourg, quand on recevait une thèse pour le doctorat, est-ce que cette thèse est correcte au point de vue de la méthode? Si elle est correcte, c'est parfait. Elle est dans la vérité ou l'erreur, sans aucune espèce d'importance. Aucune espèce d'importance. La méthode est respectée. Et vous aviez des gens qui allaient bien plus loin, qui découvraient quelque chose de nouveau, et qui ne respectaient pas entièrement la méthode. Non, ça n'a aucune valeur. On devient les esclaves des méthodes. Alors comprenez bien tout de suite la différence entre la source et puis la canalisation. La méthode, c'est la canalisation. C'est la logique qui remplace la métaphysique. C'est la logique qui remplace la philosophie. Ça, c'est très très important. C'est le mal de l'intelligence, voyez. Le mal de l'intelligence, c'est le positivisme. C'est le cancer généralisé de l'intelligence. Et ça, c'est constamment. Avant, on parlait d'objet. Et l'objet, c'est ce qui détermine l'intelligence. Aujourd'hui, on parle de méthode. Avant, on parlait d'habitus. Aujourd'hui, on parle de méthode. L'habitus, pour saint Thomas, c'est quand on acquiert une science, on acquiert une certaine habileté. Vous voyez, on peut regarder les choses à droite et à gauche. On n'est pas inféodé à uniquement une voie. Ça, c'est l'habitus. L'habitus est un pli intérieur de l'intelligence qui nous permet de mieux regarder les choses. Et c'est intérieur. Donc ça a toute la souplesse de la vie de l'intelligence. Aujourd'hui, la méthode, c'est extérieur. C'est très important, ça, parce que ça fait partie du mal. Le mal de l'intelligence, je crois, c'est le positivisme. Oui, on exalte un aspect. La science en soi est bonne. La science n'est pas positiviste. Le positivisme, c'est une position philosophique qui empêche la science d'être ce qu'elle doit être et qui, en définitive, tue la science. Parce que la science en soi est bonne, c'est bien évident. C'est une qualité de l'intelligence d'être un savant. C'est toujours intéressant de parler à un savant parce qu'il sait quelque chose dans une matière donnée. Il a réfléchi. Essayer de comprendre. Donc, la science est bonne, mais le positivisme vient, c'est une position philosophique. Le positivisme vient exalter la science au-dessus de tout. Et en exaltant la science au-dessus de tout, il tue la science. Puisque la science, par définition, présuppose l'homme. L'homme n'est pas la science. Et l'homme est plus que la science. La science est-elle pour l'homme? Ou l'homme est-il pour la science? Paraît-il que dans un congrès sur la pollution, j'avais un de mes amis qui était là-bas, un diplomate de Liechtenstein. C'est très important d'être diplomate de Liechtenstein, parce que le Liechtenstein n'a aucun pouvoir. Si ce n'est de faire des timbres pour les collectionneurs, c'est très important, il y a toujours de très beaux timbres, mais il n'a aucun pouvoir. Mais c'est quand même un État indépendant. Donc le diplomate a le droit d'aller partout, il est reçu partout. Les marxistes, les gens de Moscou aiment beaucoup ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas dangereux. Donc ils pourront parler avec ces gens-là. Alors, j'avais un ami qui est allé là-bas sur cette rencontre. poser tout de suite la question. L'homme est-il pour la science ou la science est-elle pour l'homme? Ils ont répété ça à travers tout le congrès, sans rien dire de plus. Et personne n'a relevé ce qu'ils disaient. Personne. Je l'ai dit, même l'envoyé de Rome. Alors que c'était peut-être la seule question à poser. T'es pas bête. La pollution. L'homme est-il pour la science? Ou la science est-elle pour l'homme? Eh bien, le positif. Ce qui montre, voyez, combien on est contaminé par le positivisme. Tandis que Mao était plus poète. Alors il avait compris ça. Le positivisme, c'est que l'homme est pour la science. Et la science devient une idole. Et le grand idole, c'est la science. Et c'est le progrès de la science. On peut servir de n'importe quoi. Le tout, c'est que la science progresse. Alors, les prix Nobel, ça devient les prophètes de notre monde d'aujourd'hui. Un prix Nobel peut tout dire, parce qu'il est prix Nobel. Alors il a tout dit à l'autre. Mais ça, c'est très important de comprendre ça. C'est intéressant de voir que des maoïstes, dans un congrès sur la pollution, vont dire, évidemment, ça n'a passé dans aucune presse. Et ça, je peux vous l'affirmer, parce que lui assistait à ça. Et quand il est revenu, il m'a dit, j'ai assisté à quelque chose d'extraordinaire. C'est Maurice qui disait tout le temps ça. Il le disait comme le cœur, vous savez, dans les tragédies anciennes. Le cœur qui rappelait tout le temps ça. Alors il rappelait ça, il le chantait presque. En chant grégorien, tu vois, il le rappelait presque. C'est ça, l'homme est-il pour la science? C'est une belle antienne, n'est-ce pas? Qu'il allait vous redire tout le temps. Alors, Saint-Thomas, Saint-Thomas se pose successivement ces questions. Le mal est-il quelque chose à liquide? Le mal est-il quelque chose? Là, vous voyez tout de suite, la réponse, elle est facile. Le mal en soi n'est pas quelque chose. Il est privation. Mais il y a des réalités mauvaises. Puisque je vous ai dit que le mal était toujours relatif comme privation. En soi, le mal est privation. Il est donc une négation. Et la négation est un être de raison. La privation, elle n'existe que dans mon esprit, comme privation. C'est sûr. Elle a un fondement dans la réalité existant. Mais comme privation, elle n'existe que dans mon esprit. C'est mon esprit qui est capable de comprendre qu'il y a une privation. La privation, c'est mon intelligence qui la formalise comme une négation. Le mal, article suivant, le mal est-il dans le bien? Le sujet du mal, c'est une réalité bonne. Parce que tout ce qui existe, en tant qu'il existe, est bon, substantiellement bon. Nous avons vu les trois degrés de la bonté. Donc le mal est dans le bien. Est-ce que le bien est cause du mal? Ah. Est-ce que le bien est cause du mal? Grave question. Est-ce que le mal provient toujours du bien? C'est très intéressant comme interrogation. C'est ça qu'on va voir. L'article 4, oui, je vois avec vous l'article le plus intéressant de toute cette question sur le démalo. Le mal est-il divisé d'une façon convenientaire? Le convenientaire chez saint Thomas, c'est-à-dire est-il divisé d'une façon convenable? Mais convenable. parle en français. Ça va pas très bien. Le convenience latin, c'est beaucoup plus que le convenable français. Le français est toujours une langue politique. C'est très politique le français. C'est très distingué. Alors, le convenience, est-ce que je peux dire ça dans un certain milieu? Est-ce que ça convient? Est-ce que ça convient? C'est très conventionnel. Est-ce que ça convient? Le convenience latin de saint Thomas, c'est par rapport à la sagesse. Dans une vision de sagesse, peut-on diviser le mal en mal de faute et en mal de peine? Vous vous souvenez? Dès le premier soir, en regardant la Bible, je vous ai dit que tout de suite, on voit le mal de faute et le mal de peine. C'est donc une division de sagesse. Enfin, article 4. Y a-t-il une raison de mal? La ratio mali. Nous avions vu la ratio mali. Est-ce que la ratio mali est-elle plus dans le mal de faute que dans le mal de peine? Il est bien évident que la raison de mal est plus dans la peine, dans la faute que dans la peine, puisque l'orgueil, c'est le mal de faute, et c'est là où la raison de mal est le plus présent. Alors, voyons l'article 3, qui est le plus important. Puisqu'on vous a donné, je crois, une traduction, du moins ce qu'il désire, je vais lire cette traduction, plutôt que le texte latin, moi, que vous aimiez mieux que je vous lise le texte latin. Justement, je crois que si je lis le texte latin, au bout d'un quart d'heure, tout le monde dormira. Le latin n'étant plus la langue commune. Au Moyen-Âge, c'était la langue commune. Saint Thomas écrivant latin, tout le monde comprenait. C'était la langue européenne. C'était vraiment la langue européenne. Or, l'Europe représentait la civilisation. Restant ouvert à d'autres civilisations. Alors, le sept contrats, c'est toujours intéressant de voir ça. Le sept contrats, c'est saint Thomas qui s'appuie sur les autorités. Saint Augustin dit que le mal ne peut naître qu'à partir du bien. En outre, Denis dit au chapitre 4 des noms divins que le principe et la fin de tous les maux est le bien. Je réponds, c'est saint Thomas. Saint Thomas, c'est à la fin de sa vie que saint Thomas dit ça. Au début de sa vie, il ne dit jamais « je réponds ». Je réponds, c'est saint Thomas qui se présente, hein. Je réponds qu'il faut dire que la cause du mal est le bien. Dans la mesure où le mal peut avoir une cause, dans la mesure où le mal a une cause, c'est le bien. Cause efficiente, comprenez bien. Alors ça, c'est le vieil adage. Agens, agite, simile, sibi. Vous avez tous compris, parce que c'est un adage. Agens, c'est l'agent, pas l'agent police. L'agent, au niveau philosophique, c'est la cause efficiente. Toute cause efficiente agit selon sa détermination. Efficiente agit selon sa détermination et communique sa détermination. Donc, agens, l'agent, la cause efficiente, agit selon sa similitude, sa détermination et communique sa détermination. Or, vous comprenez très bien, le mal étant une privation ne peut pas être cause. Le mal comme mal est un être de raison. Mais l'être de raison ne peut pas être cause efficiente. Donc le mal comme mal ne peut pas être cause. Donc n'ayez pas peur du mal. Il n'est pas cause. Il n'a aucune... vous avez froid, vous allez auprès d'une source de chaleur pour vous réchauffer, pour recevoir la chaleur. Donc le feu est cause propre de la chaleur. Le feu est cause propre de la chaleur. Vous n'allez pas dire nécessairement que le feu est cause propre de la fumée. Pas toujours. Le feu est cause propre de la fumée quand vous voulez brûler du bois humide. Alors il y a de la fumée. Et une fumée noire. Mais c'est pas le feu qui est cause de la fumée noire. Peraginase. Accidentellement. Vous prenez l'image du feu, c'est toujours l'image que prend Satan et tous les anciens. C'est le fantasme favori pour la causalité. On comprend très bien. Le feu a comme cause propre, il échauffe. Donc, il produit la chaleur. La chaleur, la qualité chaleur provient du feu. Il y a un lien direct entre les deux. Tandis que si vous mettez le point de vue de la fumée, il y a un lien entre le feu et la fumée. Puisqu'on dit, quand on voit la fumée dans un ciel très bleu, on voit une grosse fumée qui s'élève. Et puis vous voyez dans un autre coin les sapeurs-pompiers qui courent. La rencontre des deux, vous dites, oh, il y a sûrement un feu, un grand feu, puisque vous voyez cette fumée énorme qui monte. Et puis les sapeurs-pompiers qui courent pour éteindre le feu, ou pas pour être cause du feu, mais pour éteindre le feu. Alors, vous dites, il y a un feu, nécessairement caché, et vous désirez le découvrir pour le voir. La fumée n'est pas directement l'effet propre du feu. Mais il y a une matière que le feu est en train de brûler. Et cette matière est humide. Elle implique de l'eau. Elle est humide. Elle est froide. Et le feu échauffe cette matière et fait sortir la fumée. Et la fumée se voit plus que la flamme. Elle s'élève dans l'air. La flamme, moins. Ce serait du reste prodigieux si la flamme s'élevait dans l'air comme la fumée. Vous seriez complètement affolé. La fumée se voit plus. Elle est signe. La fumée devient le signe du feu. Mais elle n'est pas directement causée par le feu. Elle est causée accidentellement. La cause accidentelle, voyez, c'est une cause qui n'est pas directe, qui implique quelque chose d'autre. C'est très important parce que vous direz que le bien n'est pas cause propre du mal. C'est bien évident, le bien n'est pas cause propre du mal. Mais le bien peut être cause peraginase, accidentellement, du mal. Et que c'est toujours une cause accidentelle. C'est terrible pour celui qui cherche. Vous comprenez? Parce que quand c'est une cause propre, quand c'est l'effet, vous pouvez remonter directement à la cause. Tandis que quand c'est accidentel, il y a une matière qui cache la cause propre. La maladie, c'est un mal. La maladie a-t-elle une cause propre? Non. Toujours une cause accidentelle. C'est pour ça que c'est si difficile de la dépister. Parce que les causes accidentelles peuvent être multiples. S'il y avait une cause propre, ça irait très très bien. Il n'y a pas de cause propre. Il y a une cause accidentelle. Alors, je vous lis ce petit raisonnement de Saint Thomas. Vous allez tout de suite saisir, j'espère. Si vous êtes intelligent, vous saisissez. pas un homme, je dis parce que vous n'êtes pas intelligent. C'est pour ça que vous n'aimez pas un homme. Parce que c'est très intelligent. Mais c'est une intelligence, évidemment, du Moyen-Âge. Et l'intelligence du Moyen-Âge, c'est une intelligence dans tout un contexte. Mais vous aimez quand même les petites églises romanes. Vous vous trouvez chez vous dans les églises romanes, du moins normalement. Les Français aiment bien les églises romanes. Ils aiment moins certains styles qu'on voit à d'autres époques. Ils aiment moins ça, le rococo. On aime moins bien l'église romane, on se trouve tout à fait chez ça. Bien, Saint Thomas, c'est du roman. Alors on se trouve à l'aise. C'est exactement ça aussi. C'est de la pierre bien taillée. Ou c'est un vitrail de Chartres. Je compare toujours Saint Thomas à un vitrail de Chartres. C'est très très curieux. Parce que si vous regardez la composition d'un article de Saint Thomas, vous voyez toutes les objections. Et puis il y a un corps de l'article. Exactement comme un vitrail bien composé. Une rosace admirable, il y a un cœur. Et tout ce qui est autour est pour ça. Mais évidemment, il faut retrouver une intelligence primitive, simple, naïve, pour comprendre ça d'abord. Mais c'est l'intelligence. Saint Thomas ne connaît pas la science moderne. Saint Thomas connaît la logique, les mathématiques. Et il sait que la philosophie, ce n'est pas la logique, ce n'est pas les mathématiques. Donc je réponds qu'il faut dire que la cause du mal est le bien, dans la mesure où le mal peut avoir une cause. Il faut savoir en effet que le mal ne peut pas avoir de cause propre. Ce qui se voit de trois façons. Donc le mal n'a pas de cause propre. C'est la première chose qu'il faut comprendre. C'est la première chose très importante à comprendre. Le mal, comme tel, n'a pas de cause propre. Premièrement, parce que ce qui a une cause propre est voulu par sa cause. Il y a une intention essentielle qui unit l'effet et la cause. En effet, ce qui arrive en dehors de l'intention de l'agent, de la cause efficiente, n'est pas un effet propre, mais un effet accidentel, per accidens. Ainsi, celui qui creuse une tombe, le fossoyeur, Saint Thomas, tout à fait du Moyen Âge, le fossoyeur, c'est un familier. Il est habitué, on voit très bien, le fossoyeur, celui qui creuse une tombe et cause accidentellement de la découverte d'un trésor, puisqu'elle est arrivée en dehors de l'intention, cette découverte est arrivée en dehors de l'intention de celui qui creuse la tombe. Celui qui creuse la tombe ne creuse pas la tombe pour trouver un trésor. Non, il creuse la tombe pour y mettre le mort. Et puis, accidentellement, il découvre un trésor. C'est très curieux parce que c'est un exemple classique au Moyen-Âge. Ça devait arriver de temps en temps. Parce que le mort précédent, on avait mis de l'argent. Alors on découvre, et l'argent et l'or demeurent plus longtemps. La pauvre chair humaine. Alors on découvre le trésor. Ça devait être des lieux à trésor, les cimetières. Hein. C'est beau. Ça devait être ça. Le Moyen-Âge prend toujours cet exemple. Celui qui creuse une tombe. Et puis sans doute parce que celui qui creuse une tombe fait ça très sérieusement. Il creuse la tombe. Puis soudainement. Vous savez l'histoire de on raconte des chartreux. Parce qu'il creuse une tombe, il trouve aussi un trésor. Vous connaissez dans les chartreuses, dans toutes les vieilles. n'existe que pour le cloître des morts. Alors on a enterré, comme en famille, il fallait que les morts demeurent. Non pas en momie, mais on les enterrait. Parce que c'était les frères pour lesquels il faut les prier, les sœurs pour lesquelles il faut prier. Alors, à la grande chartreuse, hein, le cloître mesure 100 mètres. Il est énorme, il est merveilleux. Donc, vous voyez, il faut du temps avant de recreuser au même endroit. Il faut du temps. Alors, un frère creuse une tombe pour le dernier père qui vient de mourir. Puis tout d'un coup, affolé, il ne trouve pas de l'or. Mais il y a un jet de sang. Il regarde. Il s'aperçoit que le corps est resté intact. Non seulement il reste intact, mais il y a du sang qui coule. Petit frère affolé, je comprends. Il court chez le père prieur. Et je dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Le père prieur sans bouger. Il y a de la place à côté. C'est extraordinaire et c'est authentique. Parce que les chartreux n'ont pas le droit d'introduire des causes de canonisation. On est mort.
Retenez l'exemple de l'adultère et retenez l'exemple du trésor. parce que tout est fait propre, a en quelque sorte une ressemblance avec sa cause. L'agent agit toujours semblablement à lui-même, donc il y a une similitude entre l'effet et la cause. Le feu est cause du feu. Le feu est cause de la chaleur. Ou cause du feu. Parce que tout effet propre a en quelque sorte une ressemblance avec sa cause. Soit selon la même raison, comme dans les agents univoques. Soit selon une raison défectueuse, comme dans les agents équivoques. Analogique. C'est les deux espèces d'agents qu'on prend les deux causes efficientes. La cause efficiente est ou cause efficiente univoque. Le feu engendre le feu. Donc ça c'est une causalité univoque parce qu'il y a la même forme. Tandis que la causalité analogique, c'est quand il n'y a pas la même forme entre l'agent et l'effet. Un artiste n'est pas cause univoque de la statue qu'il sculpte. Il est cause analogique. La statue est possédée dans son esprit selon un mode totalement différent que dans la réalité. Quand l'esprit est cause, c'est toujours une cause analogique. Toujours. Dieu est cause analogique comme créateur de sa créature. Provenant de Dieu, nous ne sommes pas univoques avec Dieu. Dieu n'est pas un homme tout en créant un homme. Dieu n'est pas un ange tout en créant des anges. Dieu n'est pas matière tout en créant la matière. Il y a équivocité entre l'effet et la cause, c'est-à-dire une totale altérité. Or, toute cause efficiente agit en tant qu'elle est en acte, ce qui appartient à la raison de bien. C'est pourquoi le mal, en tant que tel, n'est pas semblable à la cause efficiente. Selon ce qu'est la cause efficiente, il reste donc que le mal n'a pas de cause propre. Le mal, comme tel, ne peut pas provenir directement et immédiatement du bien, puisque c'est justement la privation du bien. Donc c'est la négation même de la causalité. Troisièmement, parce que toute cause propre a un ordre sûr et déterminé vers son effet. Or, ce qui arrive selon un ordre n'est pas mauvais. Mais le mal arrive en dehors de l'ordre. D'où le mal, en tant que tel, n'a pas de cause essentielle. Je crois qu'on comprend ça tout de suite, si on est un tout petit peu intuitif. Que le mal, étant privation, ne peut pas avoir une cause immédiate et propre. Puisque toute cause propre est en acte, implique une détermination et selon son cheminement implique un ordre. Il suffit d'analyser qu'est-ce que c'est que la causalité. Évidemment, il faut comprendre ce que c'est que la causalité. Alors depuis Kant, depuis Hume, on a beaucoup de peine de comprendre ce que c'est que la causalité. Dans le sens où saint Thomas l'emploie, la causalité c'est une source d'où jaillit quelque chose. On est cause. Quand vous écrivez, quand vous grattez, vous êtes cause de ce qui est écrit. Donc vous avez l'expérience de la causalité. Est-ce que ce qui est écrit est un effet qui est tout autre que ce que vous pensez dans votre tête? Il y a un lien. Il y a un lien. Puisque vous pouvez après relire vos notes, si vous avez le temps. Parce qu'on prend des notes pour rester éveillé au cours. Non pas pour les relire. On prend des notes pour rester éveillé au cours. Parce que c'est très difficile de rester éveillé sans fixer son attention. Autrement, on ne prendrait pas de notes. On est provient de nous. La causalité fait qu'on est source d'un effet. Et cet effet a une certaine similitude par rapport à nous, si on est cause propre. Si on est cause accidentelle, ah, c'est tout à fait différent. Si on est cause accidentelle, c'est tout à fait différent. Vous pouvez prendre des exemples. Prenez l'exemple du feu, c'est très simple. La cause accidentelle dans beaucoup d'effets. Bon. Vous arrivez en retard, vous devez déplacer quelqu'un qui vous laisse sa place. Pas. Et cette personne, en se déplaçant, tombe, malheureusement, parce que la chaise qui était à côté était dure, ne tenait pas. Êtes-vous cause de l'accident de cette personne? Vous êtes cause accidentelle. Accidentellement, vous êtes cause. C'est à cause de votre retard que la personne a dû changer. Elle l'a fait charitablement. Pas la charité qui est cause de l'accident. Alors qu'est-ce qui est cause de l'accident? C'est la chaise qui n'est pas bien, c'est sûr. Et la chaise qui n'est pas bien, c'était un meuble. Vous avez oublié que c'était un meuble, cette chaise. C'est pas faite pour qu'on s'assoie dessus. Elle est très vieille, toute détraquée. Donc, elle est faite pour un musée. Et quand vous prenez une chaise de musée pour vous asseoir dessus, dangereux. Hors d'usage. Alors, hors d'usage, on ne peut plus en user. Et la personne, par charité, se précipite sur cette chaise. Tombe. Et la personne qui est arrivée en retard a provoqué ça accidentellement. Pas intentionnellement. Ah, il pouvait y avoir un coup monté. Il pouvait y avoir un coup monté. J'arriverai en retard. Je mets à côté de la personne. Qu'est-ce qui ne tient pas? Je vais arriver. Vous allez voir. Alors, vous déplacerez, ce sera la seconde personne qui se déplacera tout de suite. Alors là, il y a une intention. Alors à ce moment-là, intentionnellement, vous êtes cause de l'accident. Oui, c'est pas si commode que ça de découvrir la causalité. Dès que l'esprit intervient, matériellement, un positiviste, puisque faut toujours avoir le positiviste derrière soi, un positiviste, lui, verra ce fait sans regarder les intentions. Mais attention, c'est pas du positivisme. Il ne regarde que les effets. L'effet, c'est très simple. Vous avez été cause de ce déplacement. La chaise n'a pas tenu. Donc vous êtes complice. Et c'est à cause de vous. Alors qu'intentionnellement, non. Parce que vous ne regardez que ce qui est mesurable. Alors, on continuera cet après-midi. Il faut cependant que d'une certaine manière, le mal. Deuxièmement,